La voix. La voix, une émission proposée par le frère Jean-Emmanuel de Hénin.
Bonne soirée à tous pour les Noctambules, une nouvelle émission dans la nuit animée par le père Jean-Emmanuel de Hénin autour du pardon. C'est tout de suite sur Radio Présence.
Daniel, tu te souviens que je t'appelais par téléphone pour que tu viennes te confesser régulièrement. Tu te souviens de ça ?
Tout à fait. Je me souviens même très bien. Et c'était vraiment la chance de ma vie. Et je pense que c'était certainement l'Esprit Saint qui t'a fait faire ça. Parce que je ne connais personne qui téléphone aux gens pour aller confesser. Je n'ai jamais entendu. Et les autres confesseurs qui sont venus après, eh bien, ça, ils ne connaîtront pas.
Oui, et tu disais dans ton livre, moi je m'en souvenais pas, mais j'ai relu ça, que je t'ai répondu, et c'est vrai, que je faisais ça avec personne d'autre. Qu'effectivement, les autres, mais que pour toi, je savais que c'était une nécessité, que c'était un besoin. Ce qui, bien sûr, crée un lien tout particulier. Et effectivement, je crois que cette confession régulière, qui permet de venir puiser au pardon de Dieu, a petit à petit fait son œuvre à réconcilier.
C'est tout à fait juste dans le sens où, dans le fond, pour moi, la confession était... Je me suis confessé donc, quand j'étais petit, et dans le fond, j'inventais des choses banales pour aller confesser, parce qu'on allait confesser, on était, voilà, mais j'avais pas compris d'abord ce que c'était la confession, mais dans le fond, je savais que quand j'avais confessé, même si j'avais raconté des histoires banales et des fois fausses pour essayer de trouver des péchés, eh bien, je ressortais heureux. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé avec toi, c'est que dans le fond, la confession, ça paraît désuet, ça paraît... Mais n'empêche que dans le fond de soi, il y a quelque chose qui fait... Il y a une semence qui grandit. C'est la graine de moutarde. On ne le sait pas. Mais on le voit avec les années plus tard, comme quoi c'est essentiel que tu me téléphones.
Effectivement, tu sais bien que pendant longtemps, c'était aller à confesse. Aller à confesse, terrible, et puis on avait les billets de confession. Alors, c'est pas que c'est terrible en soi, mais c'est quand ça reste quelque chose d'extérieur, quand c'est pas une expérience, évidemment, c'est pas tout à fait ça. Alors que là, ce que nous avons vécu, et pour des raisons que nous connaissons bien, une transformation, c'est ça. Oui, ce qu'on confesse, c'est l'amour de Dieu, son pardon, qui nous est offert, et là... Là, on est à un autre niveau, c'est l'existence elle-même qui est transformée, qui est touchée progressivement. On entend parfois, tu sais, comme moi, que oui, les cathos, c'est facile, on a fait une connerie, et puis, pardon, excusez l'expression, mais on est dans le sud, donc on peut se permettre ce genre de mots, on a fait une grosse bêtise, il suffit de se confesser, puis c'est bon. Et il m'arrive souvent de répondre aux gens, puisque si c'est facile de se confesser, venez. Y a pas, les confessionnaux sont pas archi pleins et les files d'attente ne sont pas si grandes, même si parfois ça arrive, que c'est pas si simple, n'est-ce pas? C'est pas si simple de se confesser, et pourtant, quelle démarche extraordinaire!
Alors d'abord, c'est une démarche énorme que, ma foi, ceux qui n'ont pas la chance de le faire pourront pas le savoir, et puis surtout, c'est que demander pardon pour ses fautes, c'est aussi pour soi-même pouvoir pardonner à ceux qui peut-être nous ont blessés. Et ça, c'est le sommet, en fait, de la vie. C'est que la personne qui peut pardonner à d'autres personnes pour des choses, disons, qu'il a vécues, eh bien, il va se remettre debout pour toute sa vie, parce qu'il aura cette chance de pouvoir. Il était pardonné, lui-même peut pardonner. Donc ça, c'est une, disons, une valeur inestimable qui vaut tout l'or du monde.
C'est ce que tu dis dans ton livre, « J'ai construit ma vie sur ce pardon ». Et nous disons chaque fois dans Notre Père, mais Jésus nous a enseigné une prière, et l'une des phrases les plus difficiles à prononcer, c'est « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et quand l'offense est grave, cette parole ne peut pas être dite à la légère. Et en même temps, nous demandons pardon, parce que chacun de nous a besoin de recevoir ce pardon, parce que nous sommes incapable de pardonner. Cette phrase « J'ai construit ma vie sur le pardon », elle reste vraie, bien sûr, pour toi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, au fil des mois, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont une immense souffrance. Et puis, dans cette souffrance, dans le fond, ce qui leur manque, c'est ce pardon. Ils ne peuvent pas pardonner. Et dans le fond, quand on ne peut pas pardonner, eh bien, on ne peut pas, malheureusement, pas grandir. Alors moi, je prie tous les jours pour toutes les personnes qui aimeraient demander pardon, mais qui ne peuvent pas demander pardon, et je les comprends aussi. C'est une démarche de longue haleine, c'est une démarche énorme, mais je pense, et grâce à la prière, je pense qu'il y a des gens qui pourront le faire et qui vont découvrir, dans le fond, ben Jésus, tout simplement, ils vont le découvrir, et ils vont découvrir cette joie qui est, disons, qui est gratuite, qui se sent pas, mais qui fait que le cœur va revivre et va trouver des nouvelles forces pour cette vie qui nous est donnée, dans le sens où tout le monde a des souffrances, tout le monde a à pardonner, mais la personne qui a cette chance, c'est une chance de pouvoir pardonner.
Quand tu parles de la personne, toi, la personne.
Tout à fait. Donc, c'est, si on veut, là, si soi-même, on peut pardonner à une personne, mais ça peut être des choses banales, hein, je veux dire, c'est pas extraordinaire des fois, mais ce pardon vous met debout. C'est quelque chose qui est énorme pour moi.
Est-ce que le pardon t'a mis debout ?
Pardon ?
Est-ce que le pardon, d'ailleurs tu viens de dire pardon, est-ce que le pardon a fait de toi un homme debout ?
Alors voilà, c'est ce qui m'est arrivé, je suis vraiment un homme debout et surtout, en plus, je suis un homme libre. Et j'ai découvert, depuis que je sais ce que c'est vraiment le pardon et que j'ai pardonné, c'est que je suis un homme libre, c'est-à-dire que tous les gens que je rencontre dans ma vie aujourd'hui, je suis libre. C'est-à-dire que je peux les écouter sans les juger, sans a priori. Ils parlent de leur vie et souvent, c'est des gens qui, disons, d'abord je suis ému de voir des gens qui parlent vrai, qui sont proches de soi et tout d'un coup ça devient, même si des gens que je ne connais pas, deviennent des frères et des sœurs pour l'éternité. Donc ce qui est très beau, c'est de pouvoir se retrouver entre deux ou trois personnes, ou même une personne, et pouvoir l'écouter et sentir qu'elle aussi a pardonné. Alors je raconte une toute petite histoire. J'ai vécu dans une petite conférence à Fribourg, en Suisse. J'étais dans une salle et vraiment la bagarre, c'était le pardon. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut pardonner. Et là, il y a une dame africaine, une Rwandaise, qui s'est levée et qui a dit « Monsieur Daniel, moi, mes 5 enfants sont morts devant mes yeux. Ils ont été tués par des bourreaux que je connais. Et j'ai pardonné. » Et je peux vous dire que la salle a été comblée de l'Esprit Saint, enfin, d'une immense force. Et voilà, j'ai pu partir sans autre.
Et oui, car, cher Daniel, il y a des fautes qui semblent impardonnables. Et dans le monde dans lequel nous vivons, effectivement, eh bien, on proclame parfois que certaines choses, certaines réalités terribles, c'est impardonnable, on ne peut pas pardonner. que c'est impossible à pardonner. Ces gens-là n'ont pas tort, par certains côtés, car effectivement, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas le pardon qui vient d'ailleurs, c'est effectivement à vue humaine impardonnable. Par contre, quand on reçoit le pardon, quand on accepte d'accueillir le pardon qui vient d'en haut, qui vient de l'intérieur, et bien c'est ce que tu viens de dire, il y a un chemin de libération qui se fait, parce qu'il faut pouvoir vivre, construire, et que cela, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique avec juste un petit pardon du bout des lèvres, mais que c'est une un long chemin de libération. Ce que j'entends avec toi, et nous l'avons partagé bien des fois, c'est qu'effectivement ce pardon t'a libéré progressivement, libéré de ces chaînes qui t'ont enfermé, dont les séquelles sont encore là aujourd'hui, mais une liberté, un autre homme petit à petit qui naît avec des combats, avec des limites, avec des chutes, mais bien réellement. Car en effet, on peut se demander parfois si des choses ne sont pas impardonnables. Est-ce que ce pardon qui t'a construit, qui t'a libéré, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce que tu as dû ou essayer, avec la grâce de Dieu, de pardonner?
Alors ça, c'est une immense étape dans une vie, un pardon. Alors dans le fond, à l'âge de 11 ans, donc j'ai pardonné à mon bourreau, on peut dire ça comme ça, puisque j'ai été violé 4 ans, et c'était un prêtre, et j'étais donc à une messe le 15 août 1971, et le prêtre donc prêchait, ce prêtre qui me viole, et il a prêché sur la Vierge Marie. Et j'ai vu toute cette foule qui était là, pas mal de personnes pleuraient dans cette église. Et je me suis dit, dans le fond, il y a le prêtre. Dans le fond, c'est un bon prêtre, je vois, il parle bien, il touche les gens, etc. Puis d'autre côté, eh bien, il y a un autre homme. Donc j'ai essayé de dissocier les deux hommes, donc l'homme d'église qui faisait son boulot parfaitement, et l'homme, l'homme malade dans le fond, qui va continuer à me violer. C'est là, à 11 ans, lors de cette messe du 15 août, que je vais lui pardonner, parce que je sais intérieurement que dans le fond, il n'en peut rien. C'est que c'est un malade et qu'il faut que d'autres personnes s'en occupent.
Effectivement, un être double. Et dans ce livre, il y a une interview de cet homme, de ce prêtre, et c'est très frappant de voir comment lui-même ne se comprend pas et qu'il est divisé. C'est un être divisé, profondément divisé. C'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, vous connaissez certainement ce roman, mais qui s'appuie sur une réalité. C'est-à-dire qu'on peut être docteur, très bon docteur pendant la journée et un monstre pendant la nuit. Et c'est ce qui arrive à ces êtres-là, qui sont des êtres effectivement malades, en souffrance, et qu'il faut absolument les aider à se soigner. Or, l'un des soins, c'est celui de les accueillir non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais tels qu'ils sont en vérité, d'accueillir ce qu'ils sont. Et ce jour-là, étonnamment, à cet âge jeune, mais qui en même temps, tu avais une maturité, apparemment, je crois, une forme d'illumination intérieure qui t'a permis de découvrir ce que d'autres ne découvrent qu'en 40 ans, 50 ans de thérapie éventuellement, quand c'est aussi grave que ce que tu as subi. Et là, tu as eu une sorte d'illumination qui t'est venue certainement de la Vierge Marie aussi, pour voir cet homme sous un autre regard. C'est, me semble-t-il, que c'est la foi, l'espérance et la charité qui t'ont donné un autre regard sur cet homme profondément malade, gravement malade, qui... Oui, osons le mot, bien sûr, qui est perverti, perverti, c'est-à-dire qui n'est plus dans son bon sens, qui est divisé. Et ce pardon que tu as donné pourtant à cet âge-là, même s'il n'a pas résolu tout, parce que les séquelles ont été là pendant des années, sont encore là, t'a permis effectivement de construire une autre vie. Je souhaiterais maintenant qu'on parle d'autre chose, mais qui est en même temps liée. Tu as fait des rencontres absolument incroyables. Nous le savons. Et en particulier, si j'ose m'exprimer ainsi, je le dis avec humour, tu es un spécialiste des papes. Tu as une sorte d'attirance incroyable. Tu arrives à rencontrer les papes comme si c'était des voisins de palier. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus ton rencontre avec le pape François, c'est le plus récent, mais c'est aussi Jean-Paul II, Benoît XVI, je crois aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur telle ou telle circonstance qui t'ont permis ces rencontres quand même largement exceptionnelles, qui se poursuivent encore?
Alors, c'est vrai que j'ai eu une immense chance. Je pense aussi, je suis toujours... je suis un homme de prière d'abord, et puis... Voilà, j'ai jamais cherché quoi que ce soit, et bien je m'appellerai toujours en 1984, quand on m'a proposé donc pendant une semaine des chauffeurs du pape Jean-Paul II, et là j'ai découvert quelque chose, un homme, un immense personnage, d'une bonté, d'une gentillesse, et là je vais aller pendant des années le voir régulièrement. Et puis, dans le fond, on n'a jamais vraiment parlé de... C'était des choses un peu toutes simples. Il m'aimait bien, j'étais un grand enthousiaste. Et puis, il m'a aidé à...
Je précise que tu restes un grand enthousiaste, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein.
Non, ça n'a pas beaucoup bougé, mais un enthousiaste pour l'Église. Donc, dans le fond, le pape Jean-Paul II n'a jamais su ma vie, et je pense que le pape Benoît non plus. Et c'est un concours de circonstances avec le pape François qui a fait que, ma foi, voilà, j'ai...
Oui, mais c'est vrai, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant, n'a pas connu ta vie. Mais dans ton livre, tu racontes quand même une rencontre où il t'a, si j'ai bon souvenir, où il t'a étreint d'une certaine manière. Et je pense que là aussi, il s'est passé quelque chose.
Oui, bon, il a découvert, dans le fond, que j'étais un grand souffrant.
Et tu peux nous préciser un petit peu plus concrètement, dans le livre tu dis que ça a été très bref mais très important.
Oui, c'est-à-dire qu'on était donc en voyage en Suisse, et là on s'est arrêté à un endroit, et puis il faut attendre, et puis le pape est venu s'asseoir à côté de moi. Et là, on a commencé à discuter, raconter de gentilles petites histoires, et tout d'un coup il m'a regardé dans les yeux. Il m'a regardé et il m'a dit, Daniel, tu caches une immense souffrance. Et je lui ai dit, j'ai une souffrance jusqu'à la mort. Et il m'a dit, il m'a pris les mains, il m'a dit, je prierai pour toi. Et je t'accompagne et tu viens me trouver à Rome.
Daniel, tu as rencontré un père. Un père plein de miséricorde et de tendresse.
Voilà, moi qui n'ai pas eu de papa, disons, à domicile. Et c'était en plus un père hyper violent. Et je suis ému de voir qu'un personnage qui a beaucoup d'autres choses à faire que de me regarder me prend en amitié. Et cette amitié va durer jusqu'à sa mort. Et j'étais vraiment très touché. Et j'ai aussi, à sa mort, j'ai pleuré d'ailleurs. J'ai pensé que voilà, c'était une expérience extraordinaire. Mais que maintenant, les papes, c'était fini. Voilà.
Exactement. Et puis, je pense que ce témoignage, beaucoup peuvent le donner. Hein. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Jean-Paul II. Il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que chaque personne semblait unique. Alors que c'est un pape, hein, nous disons tous, oh, on n'a pas le temps, vite, il faut... Et lui, alors que Dieu sait si l'horaire d'un pape doit quand même, son agenda doit être un peu occupé, il y avait cette sensation pour chacun d'entre nous d'être à ce moment-là unique pour lui, une qualité de présence. Et je crois que ça nous indique une voie aussi dans la qualité que nous avons dans nos rencontres. Ce n'est pas une question de quantité. Il a passé quelques brefs instants avec toi et avec tous les millions de personnes qui sont venues le voir. Mais chaque personne était considérée non pas comme un numéro, comme un de plus, mais comme un être unique. Et je pense que là aussi, quelque chose pour toi, dans cette rencontre, s'est joué qui t'a permis ensuite les autres rencontres.
Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, dans le fond, j'étais un peu hésitant sur ma foi, malgré que je l'avais, mais... Je venais de faire un séjour dans un monastère et voilà, je sortais, je n'avais pas la vocation dans le fond, mais il fallait encore reconnaître tout ça. Et puis d'avoir rencontré ce pape Jean-Paul II, ça m'a donné un espoir pas mal travaillé pour l'Église après coup et j'avais toujours son sourire, ça... Et son enthousiasme, parce que c'était dans le fond un missionnaire. C'est un vrai missionnaire comme moi, dans le fond, moi je suis un missionnaire. Et j'ai gardé ce contact et j'étais heureux chaque fois que je le voyais, ça me poussait en avant. Et puis j'écoutais aussi beaucoup tout ce qu'il faisait, ses allocutions et tout. Donc ça m'a porté pendant plus de 20 ans, dans cette vie qui n'est pas toujours aussi simple qu'on peut le penser.
Oui, et puis ça t'a amené, alors que toi-même, t'avais vécu des souffrances dans ton enfance, et malheureusement par un prêtre, ça t'a amené paradoxalement, grâce à Jean-Paul II, saint prêtre et saint pape, de te lancer dans une aventure complètement folle à laquelle j'ai participé aussi à un moment donné, qui s'appelle le rassemblement Prier et Témoigner, par l'apostolat de la prière à Fribourg, et qui a pris une ampleur incroyable et qui se poursuit encore aujourd'hui chaque année. Donc c'est tout le paradoxe, la souffrance comme fécondité d'apostolat.
Tout à fait. Et puis c'est la providence, parce que vous voyez, quand on est libre, et puis que dans le fond, on dit à Jésus, écoute, je suis à disposition. Il y a 3 ans, j'ai fait ça. Je suis à disposition. Je suis un peu en meilleure santé. Il y a 7 ans que je te prie. Voilà, j'ai fait un break comme ça. Et maintenant, je suis prêt à te rendre service, si tu veux bien. Mais sinon, je continue à prier 7 ans devant le Saint-Sacrement. D'ailleurs, je continue. Et puis là, ben, j'ai une intuition magnifique. Et c'est le livret, mais c'est tout donné, qui a fait que j'ai rencontré le pape François.
Exactement. Une intuition incroyable. Alors que c'est par un consacré qu'est venu l'abus. C'est pour les consacrés que tu as consacré du temps, beaucoup de temps, pour écrire ce livre. Aimer, c'est tout donné pour montrer la beauté. Eh oui, la beauté de la vie consacrée à Dieu, de tous ces religieux, religieuses, avec ce livre est fait de tas de visages, avec des tas de photos, des témoignages très simples, très courts. Je vous recommande, si jamais vous n'avez pas, ça, pas encore tombé entre vos mains, je vous souhaite de le découvrir. Aimer, c'est tout donner. Et effectivement, ça a été une occasion de rencontrer le pape François, encore une rencontre absolument exceptionnelle, comme tant d'autres dans ta vie.
Voilà, alors c'est vrai que c'est une rencontre assez surprenante dans le sens où, En vérité, j'ai pensé que c'était un faux pape. C'était, on m'avait mis un pape, enfin déguisé en pape, tellement il était humble, tellement il m'a fait un café, je savais plus où j'en étais. Moi, je m'imaginais quand même pape Jean-Paul II, c'était le pape Jean-Paul II. Mais là, c'était vraiment carrément le délire. Et puis, des questions extraordinaires, tu peux changer le titre, tu es vraiment l'éditeur, qu'est-ce que tu fais là? Enfin voilà, ça va aller, Saint-Joseph s'occupera de payer. Moi, je ne te donnerai pas d'argent, mais je ferai de la publicité pour toi. Donc là, c'était peut-être un des moments les plus intenses de ma vie, dans le sens où c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis, une semaine après, il faisait la publicité, on a été faire des photos à Rome, et c'était bien le pape. Et c'est là qu'une histoire toute banale va commencer. Le livre va être traduit en 16 langues, plusieurs millions d'exemplaires. Et là, voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai été lui dire au revoir. Et puis.
Oui, et effectivement, cet ouvrage a été donné aussi aux jeunes pour les JMJ. Hein, chacun a reçu ça. C'était les JMJ de Cracovie, c'est ça, en Pologne.
Tout à fait.
Et donc, ils ont tous reçu dans les différentes langues. Bon, évidemment, quelle meilleure manière de transmettre la beauté de la vie consacrée, sinon à travers des jeunes, hein, qui peuvent peut-être, grâce à ces visages, à ces témoignages, découvrir quelque chose de cette beauté de se donner. Et effectivement, ça a permis cette rencontre avec le pape François, qui effectivement a donné le titre. Rappelle-nous juste, Aimer, c'est tout donner, comment c'est venu cette histoire de titre?
Alors, si on veut le titre donc des sœurs, puisque je travaillais avec elles, plus de 177 communautés, ils avaient décidé que c'était donc la vie consacrée. Et puis moi je connais des jeunes, et puis je leur ai montré le titre, et puis la vie consacrée, déjà que Jésus, on sait pas qui c'est, la vie consacrée c'était au bout du monde. Puis là le pape, discutant avec lui, il me dit mais dans le fond, est-ce que tu as la capacité de changer ce titre? On peut changer. Je dis, bien sûr, bien sûr. Et puis il me dit, ben, ça sera aimé, c'est tout donné. Donc j'ai tout de suite compris. Bon, c'était synthèse. Il y avait déjà quelqu'un qui avait eu l'idée, une sœur. Et puis j'ai dit, eh bien, ça sera ce titre-là, magnifique. C'était vraiment le titre rêvé. On ne pouvait pas faire mieux. Et puis c'était synthèse. Et puis ensuite, il faut le dire aussi, synthèse, c'est ma plus grande copine. Et tous les jours, elle me suit partout où je vais. Et elle a fait des immenses miracles pour moi. Et voilà.
Faut dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a vécu aussi des traumatismes, alors très différents des tiens, mais bien réels et bien profonds. Hein. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on reste sur une image un peu, comment dirais-je, avec les joues roses, hein, un peu doloriste et puis un peu édulcoré surtout. Hein. Alors qu'en fait, la petite Thérèse de Lisieux, hein, elle a vécu un premier traumatisme, c'est d'être mise en nourrice très jeune, parce que très bébé, parce que sa maman était épuisée et qu'elle avait déjà probablement une maladie et qu'elle n'a pas pu la nourrir. Or ça, c'est pour un bébé, un nourrisson, c'est déjà un premier traumatisme. Et puis, il y a eu un autre traumatisme, c'est la mort de sa maman à l'âge de 4 ans, où elle n'a pas pu pleurer pour la mort de sa maman. Or, elle n'a pas compris ce qui se passait, évidemment, elle était petite, mais du coup, comme elle n'a pas pu pleurer le jour de la mort de sa maman, il lui a fallu 10 ans. 10 ans pour dépasser ce traumatisme. Et comme elle le dit, pendant 10 ans, en fait, elle était devenue, d'un point de vue psychologique, hypersensible, trop sensible, hypersensible. On ne pouvait lui faire aucune remarque, elle ne pouvait pas vivre avec les autres normalement, elle pleurait pour un rien, et c'était très, très pénible à supporter par tout ce qui l'entourait. Et comme elle disait, je pleurais, et puis à un moment donné, je me consolais d'avoir pleuré, et puis quand je me souvenais que j'avais pleuré, alors je pleurais d'avoir pleuré. Ah, évidemment, on peut imaginer que ça devait pas être très très simple. C'est ce qui fait que la petite Thérèse est si proche de ceux qui souffrent et qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, hein, qui ont souffert un traumatisme, et elle va bien sûr recevoir la fameuse grâce de Noël, hein, à l'âge de 14 ans, parce que en même temps qu'elle avait cette fragilité, elle voulait rentrer au Carmel. Bah, évidemment, au Carmel, si on pleure d'avoir pleuré, ça peut pas durer très longtemps, hein, ça tient pas. Hein, donc effectivement, hein, c'est la petite Thérèse qui t'a accompagnée comme elle accompagne tant et tant de millions de personnes, et particulièrement ceux qui se savent fragiles. En fait, tout le monde est fragile, mais beaucoup ne le savent pas, ne l'admettent pas. Certains, évidemment, se sentent plus fragiles que d'autres, le savent, l'expérimentent, et du coup, la petite Thérèse devient, oui, une amie, hein, vraiment une copine, hein, au sens que l'accompagne. Et puis, des gens très, très éloignés de l'Église, parfois, qui disent, celle-là, ah, celle-là, c'est quelque chose. Les saints, la compagnie des saints.
Tout à fait. Je viens de faire un voyage à Jérusalem, et j'ai redécouvert Sainte Marie de Magdala, son village, sa synagogue, où elle a vécu. Et je pense que cette découverte va être énorme par rapport aux gens, puisque c'est là la femme de ses péchés, quoi.
Synagogue, on ne sait pas trop si elle a dû la fréquenter, la synagogue, beaucoup, hein, étant donné sa réputation. Mais enfin, peut-être qu'après sa conversion. Mais c'est intéressant, effectivement, c'est la synagogue de l'époque de Marie de Magdala.
Tout à fait. Et puis, il faut dire aussi, le pape vient de l'élever à la hauteur des apôtres. Donc, dans le fond, Marie-Madeleine va suivre Jésus donc, jusqu'à la mort. D'accord ? Ils n'étaient pas tout ça, les autres, on ne sait pas où ils étaient. Et puis, en fait, elle va encore, Jésus va lui faire connaître que, voilà, il est ressuscité. Donc, c'est une femme énorme. Alors, quand on est sur place, puis on revit ça, et puis on nous explique de nouveau l'histoire... Ça, c'est une femme pour les cabossés de la vie, et elle aura un impact de plus en plus grand, comme Sainte Thérèse dans toute l'Église du monde.
Absolument, elle dont dit l'Évangile, Jésus a chassé 7 démons, hein, et puis en même temps une assoiffée, hein, une assoiffée d'absolu, parce que malheureusement aussi c'est les mauvais chemins, parce qu'on cherche un sens et on le cherche dans les chemins de traverse. Effectivement, je pense que Marie-Madeleine, bah, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est au rang des apôtres, évidemment, le prêtre que je suis, le frère, réagit, mais effectivement, c'est l'apôtre des apôtres, hein, c'est-à-dire qu'elle a été envoyée auprès des envoyés, et elle est même la première envoyée, hein, par Jésus lui-même au moment de la résurrection, ce qui, évidemment, lui confère un rôle tout à fait exceptionnel. J'ai eu la chance de passer à Vézelay, à Vézelay, avec la relique de Sainte Marie-Madeleine dans la crypte, dans cette basilique extraordinaire. Et c'est au cœur de la France, c'est au cœur de la France. Là, c'est des lieux de grâce, hein, Marie-Madeleine, effectivement. Et dans un monde de plus en plus souffrant, hein, dans lequel on se fait souffrir aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, où le mal existe, hein, où beaucoup sont effectivement cabossés. Eh ben, la figure de la petite Thérèse, la figure de Marie-Madeleine, hein, ce sont des gens qui se rendent proches de nous et qui nous disent d'espérer contre toute espérance.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est clair que même, bon, parce que j'ai eu beaucoup de souffrances, j'ai toujours des souffrances psychiques, je les aurai jusqu'à la mort. Et je pense que les personnes qui souffrent et qui, disons, ne voient pas de d'issue, eh bien, je leur conseille vraiment de prendre contact avec cette Sainte Thérèse et cette Marie-Madeleine, comme ça, le contact de cœur, et ils verront chez eux une force qui viendra les réconforter.
Oui, car en effet, le but n'est pas d'en rester à se lamenter, hein, sur son sort, hein, sur sa souffrance, et un petit peu ce qui arrive parfois, on reste enfermé, non, on a été victime, mais le risque, c'est de rester victime de ce qu'on appelle la victimisation, hein, de rester enfermé dans cette situation, alors que tu as expérimenté, comme d'autres, comme Marie-Madeleine, comme la petite Thérèse, qu'on peut être sauvé. Pas tout réparer, pas tout effacer, c'est pas ça. Mais qu'il y a un salut, qu'il y a quelqu'un qui peut nous tirer de notre état de victime pour devenir des gens sauvés, des êtres sauvés. Et c'est cette expérience que tu as faite, puis peut-être aussi que le pape François essaie de transmettre, me semble-t-il.
Oui, on peut dire aussi pour tous ceux qui souffrent de différentes choses, hein, on n'oublie pas, c'est pas un oubli, c'est vraiment un pardon, Et ce pardon, qui est exceptionnel, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, va vous changer un homme, va vous mettre debout. Et moi, je vois aussi des gens, mais je comprends tout à fait, qui sont malheureusement sur un tas de fumier, et puis qui ne veulent pas y descendre parce que c'est leur identité. Ils sont là, ils sont souffrants, ils veulent rester souffrants parce que s'ils ont plus, s'ils ne peuvent plus se reconnaître en ça, eh bien, ils pensent qu'ils ne peuvent plus vivre. Mais en fait, ils vivraient beaucoup mieux en pouvant descendre de là et se tourner vers les autres. Parce qu'en fait, ceux qui vous sauvent aussi, c'est tous les autres, moi-même, qui vit depuis des mois de gauche et de droite, je vois que tous les gens qui arrivent à s'ouvrir, à aller parler aux autres, à voir que d'autres, des millions, des centaines de millions de personnes à travers la Terre souffrent d'une manière ou d'une autre et souffriront, et tout le monde souffre dans sa vie, on n'est pas, et puis ça va tout droit, ça n'existe pas. Mais, eh bien, ça devient une immense fraternité. Et c'est ça, disons, qu'il faudrait rechercher, c'est cette paix. C'est ce que le pape François demande, c'est que dans le fond, on a tellement de souffrance qu'on pourrait se mettre ensemble à se parler, et là, il y aurait la paix. Et on arriverait à une paix durable, mais est-ce que c'est possible avec les hommes? Je ne sais pas.
C'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Effectivement, je pense que c'est ça l'immense force incroyable du message du Christ, hein, de la part de Dieu son Père. C'est-à-dire que sans moi, vous pouvez rien faire, mais avec moi, tout devient possible. Et la grande difficulté de beaucoup de nos contemporains, et particulièrement en Europe, en Occident, hein, c'est de vouloir se sauver par soi-même, de surtout pas s'ouvrir à l'autre, au sens de demander de l'aide. Hein, chacun doit s'en sortir. Et malheureusement, et c'est la réalité, on ne peut pas s'en sortir seul. On a besoin des autres. Et bien sûr, pour nous croyants, nous pensons qu'on a besoin d'un autre qui est le sauveur, qui est le salut. Et c'est ce que tu as expérimenté, alors que Dieu sait si voilà, tu as vécu cet état de victime et que cela a eu des conséquences, hein, des profondes. Eh bien, ça n'a pas empêché que tu fondes une famille, que tu aies 6 enfants, que tu aies une épouse, que nous connaissons bien aussi, qui, et voilà, j'étais chez vous, ils grandissent, alors même que, bien sûr, ils pourraient être détruits par cette histoire. Toi-même, tu aurais pu ne jamais fonder une famille, et pourtant, si la grâce, hein, la grâce aidant, et puis aussi le travail psychologique, puisque, effectivement, tu as dû travailler sur toi, t'as rencontré aussi des professionnels qui t'ont aidé, hein, par une longue psychothérapie parce qu'elle était absolument nécessaire, parce que tu souffrais et qu'il fallait affronter cette souffrance, mais que tu as eu ce courage d'affronter cette souffrance et que le chemin se poursuit, mais en se poursuivant, avec ce pardon, quelque chose se reconstruit. Et progressivement, un autre homme peut émerger. Cet autre homme auquel a été sensible le pape François, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec le livre sur la vie consacrée.
Tout à fait, j'ai été lui dire au revoir il y a 2 ans. Je me suis dit, ben voilà, on a travaillé ensemble, on a eu beaucoup de bonheur, et voilà, je vais lui dire au revoir, sans arrière-pensée, je suis heureux d'avoir fait ça, je suis libre, donc je lui dis au revoir, et là, il se pose quand même une question, il se demande comment j'ai fait ça aussi rapidement, aussi professionnellement, qui suis-je pour faire ça comme ça, en ayant compté que sur la Providence. Et là, on discute de banalité, Saint-Joseph, l'Esprit-Saint, voilà, tout s'est bien passé.
Ah, Saint-Joseph et l'Esprit-Saint, c'est des banalités, ben, bravo Daniel.
Non, mais disons, voilà, c'est ce qu'on s'est toujours dit depuis qu'on se voit, on s'est vu plusieurs fois. Et puis d'un coup, il me prend et il me dit, voilà, Daniel, qu'est-ce que tu as vécu pour faire ça? Et là, je lui dis la vérité, je lui dis, ben voilà, pas François, je pensais jamais te le dire, mais voilà, je le dis. J'ai été violé 4 ans par un prêtre, j'ai la foi, j'ai, grâce à Dieu, gardé la foi. Et là, il me dit, eh bien, fais un livre sur ta vie, je ferai la préface.
Alors ça, c'est pas banal.
Non.
parce qu'on ne peut pas dire que le pape s'amuse, entre guillemets, à faire des préfaces à tout bout de champ. Et là, il s'est passé quelque chose, effectivement, hein, qui vient te bouleverser, qui vient nous bouleverser, qui vient bouleverser l'Église, parce que ce n'est jamais simple de regarder certaines réalités en face. Hein, finalement, c'est toujours le même combat, le combat du mal. En fait, c'est la croix. Hein, qu'est-ce que la croix, sinon le mal cloué sur une croix, hein, on condamne un innocent. Et comment regarder ça en face? La croix, c'est un scandale. C'est le scandale de la croix. C'est de la folie pour les gens raisonnables. Mais comment peut-on être disciple de quelqu'un comme ça? Et combien sont encore aujourd'hui refusent cela? Parce que, effectivement, comment regarder le mal en face? Et François, le pape François, t'invite à regarder cela comme tu l'as fait toute ta vie, mais disons-la concrètement, à témoigner que le mal n'a pas le dernier mot.
Alors, je pense que lui-même a une intuition, l'Esprit Saint a soufflé, alors sérieusement, parce que, dans le fond, le pape fait pas des préfaces pour des... Enfin, il fait des encycliques, il fait des choses comme ça qui sont plutôt sérieuses, et puis là, une préface pour un livre qui vraiment blesse l'Église, dans le fond. C'est ça, le problème. Mais le pape est tellement ouvert qu'il va le faire, non sans difficulté, mais il va le faire... Et ce livre n'aurait eu aucune influence, rien du tout. Il est maintenant traduit en 10 langues. Et en fait, l'intéressant dans tout ça, c'est qu'il va y avoir un immense changement en moi. Un de plus, c'est que je vais découvrir quelque chose d'énorme. C'est que suite à l'écrit donc de ce prêtre dans mon livre, qui est unique au monde, il semble, mais j'ai voulu qu'il parle, et on l'a laissé parler, et là, je vais aller le trouver. Et c'est là que je vais comprendre, en lisant son texte déjà, qu'en fait, il est plus pauvre que moi. Et j'ai décidé, pour le restant de ma vie, c'est de prier pour tous les pédophiles du monde. Pour que, dans le fond, d'abord, qu'ils aient la chance de se rendre compte qu'ils font du mal, si c'est possible, et puis qu'ils se soignent éventuellement, mais surtout aussi pour qu'ils puissent, disons, essayer d'être des hommes debout, c'est-à-dire de renoncer au sexe, même si ce sexe, c'est une addiction pour eux, et qu'ils aient la chance de rencontrer des gens, comme moi j'ai fait ces derniers temps. J'ai rencontré des pédophiles, et j'ai remarqué une souffrance tellement grande, je ne sais des fois même pas pourquoi ils le font, la majorité ont été violés aussi, et j'ai rencontré que des pédophiles qui ont été violés dans des familles. Donc on sait que 80% des gens sont violés dans famille. Le reste, eh bien, c'est dans le sport, etc. Et puis que...
Dans l'Église, malheureusement, aussi.
Aussi, oui, il y a un pourcentage très petit, mais enfin, c'est normal, il y a 420 000 prêtres. Les familles, c'est mondial. Donc je me dis, la souffrance est tellement grande. Et on sait aussi, c'est une chose très intéressante, que les gens ne peuvent jamais parler avant 30-40 ans. Donc 30-40 ans après les faits. Et c'est à ce moment-là, des fois, que ça peut éventuellement sortir. Et c'est à ce moment-là, justement, que, disons, la chose est les plus pénibles. Et souvent, ces gens s'en vont et se suicident. Donc, c'est pour ça que j'ai rencontré plein de monde. Et je pense que, bon, d'abord, il faut vivre avec l'espoir. Et il faut le dire que, dans le fond, même pour un pédophile pervers, il a le droit, disons, aussi à être entendu. Et la souffrance est tellement immense, vous voyez, il a toujours peur d'être arrêté d'abord par la police et de finir ses jours en prison. Et il y a beaucoup de gens, qui ont une place dans la société, hein, il y a de tous les niveaux. Et ce qui est beau peut-être pour mon pauvre pédophile, c'est que je lui ai pardonné et qu'il a eu du mal à accepter ce pardon.
Et c'est effectivement une chance. C'est effectivement une chance. Parce que c'est la prise de conscience et donc la souffrance, mais la souffrance nécessaire. Il faut qu'il puisse souffrir, qu'il commence à souffrir, pas pour souffrir, pas pour le plaisir, parce qu'il n'y a pas de plaisir à souffrir, mais parce que seule cette souffrance pourra le libérer progressivement. Alors peut-être que ce ne sera jamais définitif, il restera malade, profondément malade, mais peut-être avec une issue, pas seulement peut-être, hein, d'après ce qu'il dit, et puis on voit bien qu'il se fait soigner, donc il accède à quelque chose, et puis il découvre lui-même l'horreur de ce qu'il a fait subir aux autres, mais du coup, il peut accéder aussi à la rédemption, parce que il peut voir des choses qu'il n'avait pas vues lui aussi. Est-ce que tu te rends compte, Daniel, combien ce que nous venons de dire est scandaleux aux yeux du monde?
Oui, c'est dans le fond... Enfin, c'est presque incompréhensible. Dans le fond, moi, jamais j'aurais pensé le revoir. J'avais aucune envie, d'abord. Et puis, d'un coup, on va se revoir. Et en fait, on va se retrouver frère. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Mais ça s'est passé comme ça.
Comment comprendre que nous sommes tous frères, qu'il n'y a pas les monstres d'un côté et les gens bien de l'autre, que finalement nous sommes tous des pécheurs. Alors bien sûr, il y a des péchés plus graves que d'autres, mais nous sommes tous appelés à être sauvés. Et c'est là le scandale de notre foi chrétienne, c'est de croire que Jésus, que Dieu... Ben, il vient sauver tous, y compris ceux qu'on considère des monstres. Il est venu pour tous. Il n'y a aucune exclusivité de ce point de vue-là. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est de l'avoir vécu. C'est, c'est de l'avoir expérimenté, parce que ça, c'est extrêmement rare. On peut le croire au sens de l'espérer pour le ciel, pour quand, mais vivre déjà sur cette terre quelque chose qui était effectivement au sens strict incroyable, on ne peut pas y croire. Enfin, c'est trop beau pour être vrai par certains côtés, trop incroyable. Et bien, l'avoir expérimenté, ça, c'est une espérance. Une espérance. Le titre de ton ouvrage, c'est Père, je vous pardonne.
Tout à fait. Peut-être la dernière chose, la troisième chose que je veux dire, c'est que dans le fond, ce prêtre, donc, bien sûr, est persuadé qu'il ira dans un lieu où personne ne veut aller, c'est-à-dire, on le dit comme ça, à l'enfer. Et puis, je lui ai dit, écoute, mon cher, il faut aller confesser. Il faut confesser tes fautes et pas recommencer. Et là, nous serons ensemble au paradis. Nous serons l'un à côté de l'autre au paradis. Et il a pleuré. J'ai été très ému de lui dire ça, mais je suis persuadé que dans le fond, s'il reconnaît sa faute, eh bien, il ne recommencera pas d'abord. Hein. Et puis, que c'est la folie de Dieu. C'est qu'il peut pardonner, et on a tous à être pardonnés. Dans le fond, on a tous fait des bêtises, on est né comme ça, on est né un peu, on a le mal en nous, dans le fond, on est des cochons nous-mêmes, on est des salauds nous-mêmes, et de pouvoir accepter déjà ça, et d'avoir la chance d'avoir pas, disons, fait un scandale pareil, pour moi, c'est extraordinaire, mais... Je me dis, voilà, eux, donc ce prêtre et tant d'autres, eh bien, ils peuvent aussi être sauvés, et c'est ce que je leur souhaite. Et puis pour tous ceux qui souffrent, hein, que ce soit toutes les personnes qui ont été violées dans leur vie, je leur conseille de passer dans une église, n'importe où, quelques secondes, quelques minutes, pour recevoir la paix intérieure. Il faut demander ça. Et ça, c'est le plus important, c'est d'avoir cette paix intérieure pour pouvoir continuer cette vie qui nous est donnée.
Cher Daniel, nous avons commencé cette, je ne sais même pas comment il faut l'appeler, cet échange en parlant de la confession. Et nous achevons par la confession. Confession, pardon, réconciliation, ce sacrement du pardon. Quelle magnifique et extraordinaire bonne nouvelle nous avons à annoncer. Elle n'est pas facile à annoncer, parce que ça veut dire la souffrance, le mal, nommer la souffrance. Mais quelle délivrance, quelle extraordinaire délivrance, quand on accepte de l'affronter, de recevoir le pardon de Dieu, pour à notre tour pardonner. Et là, la spirale du mal est brisée et scellée. Celle du bien, le bien qui vient de Dieu, qui peut émerger. Et des hommes, des femmes qui étaient à terre, se mettre debout. Merci, Daniel, d'être pour nous le témoin vivant de cet homme debout par la grâce de Dieu et par la grâce du pardon. Merci, Daniel.
Merci, Jean-Emmanuel. Grâce à toi, j'ai fait un chemin immense. Et puis, je souhaite à toutes les personnes qui nous ont entendus d'être ouverts à la grâce, parce que je sais que la grâce est là et qu'il vous soutiendra. Et moi, je prierai pour ceux qui entendront cette émission.
Nous le ferons, Daniel. La nuit se poursuit. Malheureusement, la nuit, parfois, de la souffrance pour beaucoup. La nuit, parfois, de la désespérance. Et pourtant, dans cette nuit, une étoile s'est peut-être levée, peut-être que ce sera bientôt la lune qui s'éclairera, et la nuit deviendra comme le jour, comme dit le psaume, une nuit qui s'illumine. Chers amis, je vous souhaite de traverser la vie pour aller vers l'aurore, l'aurore finale, où un soleil naissant va pouvoir se lever sur notre vie. Puissiez-vous affronter le côté obscur de la force, comme le dit la culture contemporaine, pour découvrir le côté lumineux que chacun d'entre nous porte, même s'il l'ignore. Puissions-nous tous devenir des enfants de lumière au bout de la nuit.